J'espère que vous allez bien. J'espère que les routes ne sont pas trop glissantes, Max. Alors, prions. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous accordes de plonger nos regards dans ta parole et d'y trouver la nourriture, d'y trouver le breuvage dont nous avons besoin pour cette semaine. Nous savons, Seigneur, que cette parole a été préparée de toute éternité pour nous. Pour nous bénir, pour nous enseigner, pour nous amener à la réflexion et surtout pour nous amener à opter un style de vie, une démarche qui t'est agréable. Alors ce matin, Seigneur, au-delà des mots qui seront prononcés, au-delà du message qui sera partagé, on te demande, Seigneur, que tu nous couvres de ta grâce, de ton onction et que tout ce qui sera dit ce matin émane directement de ton trône. Mais de surcroît à cela, que cette parole puisse trouver une parole, une terre propice à sa croissance, propice à ce qu'elle produise un fruit qui te sera agréable, tant de ce côté-ci de l'éternité que lorsque nous te verrons face à face pour le restant de l'éternité. Alors je bénis ma sœur ce matin, j'appelle la bénédiction sur mon frère aussi, et qu'en toute chose que toute la gloire te revienne à toi, et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue parmi nous. On ouvre nos Bibles dans Proverbes au chapitre 3, que je lis pour vous du verset 1 au verset 12. Et cette semaine, les versets qui nous seront clés seront les versets 11 et 12. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Le verset 11. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Je répète les versets 11 et 12. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel, et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Depuis maintenant 4 semaines, on débute notre 4e semaine, on a cette thématique jour après jour, instruction à mon enfant. Ici, on sait que c'est Salomon qui donne des instructions à son propre fils, le roi Salomon, celui qui est considéré comme l'homme le plus sage qui ait existé, celui qui est allé à expérimenter tant les bons que les mauvais côtés de cette existence humaine, et il en tire des conclusions qu'il partage avec nous, bien entendu, dans Proverbes et dans le livre d'Ecclésiaste. Mais au-delà du fait que Salomon donne des conseils, des avertissements, des guidelines, comme on dit en anglais, à son fils plutôt, c'est aussi Dieu qui nous parle à nous, en tant que ses enfants. Et ce matin, et puis cette semaine, on va parler d'une thématique qu'on aime un peu moins, qu'on appelle la correction ou la discipline. Et effectivement, Dieu corrige et Dieu discipline. On va voir pourquoi Dieu corrige et Dieu discipline. Il y a des raisons toutes simples et toutes logiques. Et il nous faut toujours ramener cette correction et cette discipline comme étant exercée par celui qui est parfait en toutes choses, celui qui aime aussi parfaitement en toutes choses et en toutes circonstances. Très souvent, lorsqu'on parle de la correction, lorsqu'on parle du châtiment, effectivement, il y a une notion qui est négative dedans, il y a une notion qui n'est pas trop agréable, dans le sens où quand je suis corrigé, c'est parce que j'ai été pris en défaut, c'est parce qu'on fait ressortir chez moi quelque chose qui n'est pas positif. Et de cette chose que j'ai pratiquée, que j'ai fait, que j'ai prononcée, qui a été mienne et qui n'était pas positive, il y a aussi des conséquences au niveau d'une punition, au niveau d'une réprimande, au niveau d'une correction. Et il n'y a personne qui naturellement aime la correction. Et je crois que pour apprécier la correction, il faut aussi en comprendre sa juste valeur. Et j'espère que cette semaine, je m'excuse, c'est ce qu'on va être capable de partager ensemble. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Quatre mots importants aujourd'hui. Tout d'abord, mon fils, le terme Ben, B-E-N. Donc, quand on parle de Benjamin, on parle du plus petit ou du plus jeune des fils. Dès qu'on voit dans l'hébreu, le terme Ben, B-E-N, on parle donc de la progéniture de quelqu'un. Ici, Salomon s'adresse à son fils et lui dit « Tu es la progéniture de ton père ». Nous, en tant qu'enfants de Dieu, au-delà de la progéniture biologique que nous sommes de nos parents et de nos pères naturels, nous sommes aussi progéniture d'un père spirituel. Et le premier éducateur ou les premiers éducateurs que nous avons dans notre vie, et tous les spécialistes vous le diront, et c'est pratiquement une vérité de la balise, lorsqu'on dit effectivement que nos parents sont nos premiers éducateurs, donc nos parents sont aussi les premiers qui exercent sur nous une discipline ou une correction. Et si Dieu est effectivement notre Père, s'il est effectivement un bon Père, il va travailler à notre éducation. Il va travailler à ce que nous devenions des hommes accomplis, à ce que nous devenions des citoyens de ce monde qui soient dignes de mention, qui soient dignes d'honneur, mais de surcroît à ça, que nous puissions aussi devenir des citoyens du royaume de Dieu dans lequel notre Seigneur, notre Père, tire honneur. Quand on a un enfant physique, j'ai pas eu cette grâce d'avoir des enfants physiques, mais il y a des gens que je considère comme étant des enfants spirituels. Et il y en a un avec qui j'échangeais hier concernant la météo. Contrairement à son père que je suis, il n'est pas friand de la substance blanche qui est tombée sur vos voitures et sur vos terrains à travers les dernières heures. Mais en échangeant avec lui, j'appréciais aussi tout ce qu'il est dans ma propre vie. Et c'est un des meilleurs bassistes qui existent, non seulement dans le milieu laïque, mais aussi dans le milieu chrétien de Montréal, du Québec, et sa renommée prend de l'ampleur à l'extérieur. Et quand je le vois agir, quand je vois l'homme qu'il est devenu, je l'ai connu quand il était tout jeune, j'ai été présent dans sa vie depuis qu'il était un gamin, dans ses premiers pas dans la foi, mais toute sa croissance, tout son cheminement me rendent heureux. Me rendre fier de ce qu'il est devenu. Ces jeunes dames que je considère mes filles, qui deviennent des épouses, qui deviennent des mamans, qui travaillent pour Dieu, qui deviennent des citoyennes accomplies, lorsque je les vois croître aussi, j'en tire honneur. Donc Dieu, du comportement que tu vas avoir, de l'éducation que tu reçois et que tu appliques dans ta vie, va aussi tirer honneur. Donc, nous sommes une progéniture de nos parents, oui, mais nous sommes une progéniture de Dieu. Et si cette image de Père qu'il a pour nous doit révéler quelque chose, c'est que Dieu va effectivement se comporter en tant que papa pour toi et pour moi. Alors, par moment, il va effectivement acclamer les choses bonnes que nous faisons. Et toutes ces choses bonnes, il va être notre premier partisan et le premier à festoyer avec nous. Mais concernant les choses qui sont moins agréables à ses yeux dans notre vie, il ne va pas se croiser les bras, se tourner les pouces et attendre tout simplement que ça passe. Il va aussi jouer son rôle de papa. Il va aussi jouer son rôle de père au niveau de la discipline qu'il va accorder chez nous. Donc Dieu, oui, accorde une discipline. Dieu, oui, impose une discipline. Mais parce que de toute manière, il est notre père. S'il ne le faisait pas, on ne pourrait pas considérer qu'il prend vraiment en compte toutes ses responsabilités parentales ou paternelles à notre égard. Le terme « ben », qui est aussi intéressant ce matin, nous renvoie non seulement à la paternité de Dieu, au fait que nous sommes partie prenante des enfants de Dieu, mais lorsqu'on parle de « ben » aussi, on parle aussi de ce qu'on appelait être membre d'une guilde, être membre d'une association, une association dans laquelle nous apprenons, être membre d'un corps professionnel en tant qu'apprenti. Et nous savons tous qu'un apprenti a un maître devant lui. Lorsqu'on devient, ça se voit davantage dans des sociétés encore comme en France, où on a des corps de métier qui sont regroupés avec des apprentis et des maîtres. Donc l'apprenti boulanger travaille auprès d'un maître. J'ai un de mes amis que j'apprécie sur Internet qui est cuisinier et qui a fait sa formation ici au Québec, mais par la suite il est parti en France et il est allé travailler dans plusieurs cuisines importantes auprès de plusieurs cuisiniers importants et il faisait ce qu'on appelle l'apprentissage. Mais l'apprentissage fait en sorte qu'on commence à éplucher des pommes de terre et notre maître nous dit « Non, non, ces pommes de terre-là ne sont pas bien épluchées. Tu n'y vas pas assez profondément ou tu y vas trop profondément. Tu enlèves trop de peau. » Donc, il y a une correction qui va être faite sur notre travail. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes donc enfants de la famille royale. Dans la famille royale, il y a effectivement des procédures à suivre. Il y a aussi un mode de vie avec lequel on doit se plier. Et c'est pour ça que le jeune prince britannique et son épouse américaine ont décidé que si on voulait vivre d'une autre manière, si on voulait vivre libre de cette contrainte d'être considéré comme prince et princesse, il nous faut nous désister de nos titres royaux. Donc le prince et son épouse ont donc quitté leur devoir princier, mais ne peuvent plus non plus invoquer leur privilège de prince. Dernièrement, lorsqu'il y a eu le 11 novembre, ils voulaient faire un honneur aux anciens combattants et ils voulaient encore signer avec son titre princier. Et la famille royale s'y est opposée en disant « Non, vous vous êtes désisté de vos droits, de vos privilèges, de vos titres, donc vous ne pouvez plus intervenir en tant que prince. » Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous appartenons à la guilde royale, nous appartenons à la famille royale, et ce faisant, on se plie aussi aux règles qui sont parfois des contraintes à ce qu'on appellerait notre liberté personnelle, mais lorsqu'on pense qui est le roi, de quel royaume on parle, de quelles sont ces règles qui sont sages, qui sont bonnes, qui sont parfaites et excellentes, on se rend compte que c'est plus des caprices qu'on pourrait avoir de ne pas se soumettre à la volonté de Dieu que quelque chose qui est légitimement logique pour nous tous. Donc, étant membre, étant ben, étant fils, étant membre de la famille royale, j'ai aussi des règles. Mais en tant que membre de la société, j'ai aussi des règles. Actuellement, le gouvernement, de par les mesures de santé publique, a donné des directives, et ces directives, lorsqu'on regarde la loi de la santé publique, ces directives ont poids et effet de loi. Voilà pourquoi, dans un lieu public, on doit porter un masque si on ne peut pas respecter les distanciations. Oui, c'est contraignant. Oui, ce n'est pas agréable. Oui, on y respire un peu moins bien. Mais ce sont des règles qui sont établies. Et moi, en tant que citoyen, je ne vis pas au banc de la société. Je ne vis pas en parallèle ou en touche de la société. Donc, pour bénéficier de tous ces bienfaits d'être un citoyen de la nation, je dois aussi me plier à certaines règles de cette nation. De surcroît à cela, en tant que membre de l'Église de Dieu, dans son ensemble, l'Église universelle, mais de surcroît à cela, en tant que membre de l'Église locale que peut constituer une assemblée locale, on a tous aussi, dans une assemblée locale, tout comme dans l'Église, le corps de Christ, dans son ensemble, des règles qui sont propres à notre citoyenneté d'enfant de Dieu, des règles qui sont propres à notre membership en tant que membre du corps de Christ, mais aussi des règles propres à l'Église locale. Il y a certaines églises qui auront telle ou telle pratique, qui ne sont pas des questions de péché, qui sont tout simplement des questions de culture. Certaines églises vont utiliser des instruments qui sont strictement des instruments non électriques. Il existe effectivement des églises chrétiennes où on ne peut pas jouer le synthétiseur. Il y a des églises même chrétiennes où on n'utilise pas d'instruments, on n'utilise que la voix pour célébrer Dieu. Est-ce que c'est une question de commandement biblique? Non, à part entière, non. Mais c'est les pratiques, les us, les coutumes de cette famille locale que constitue cette église-là. Alors, nous n'avons peut-être pas les mêmes règles, et il y a certaines règles que nous avons qui sont peut-être plus fermes dans certaines pratiques que dans d'autres, mais ça fait partie tout simplement d'être partie prenante d'une église locale, d'un corps local. Donc, en tant que fils, oui, je me soumets à des règles parce que j'ai un Père qui est le Père Céleste et qui manifeste aussi ces règles à travers le leadership qui est exercé dans une église locale avec l'imposition de règles, de procédures qui sont propres à une église et pas à une autre. Ici, Salomon va dire à son fils, ne méprise pas la correction. Mépriser, c'est le terme ma'ak. Ma'ak, M-A-A-C. Je répète, mépriser, ma'ak, M-A-A-C. Qui a encore ici deux déclinaisons importantes. Première déclinaison qui veut dire ne méprise pas dans le sens ne néglige pas la correction, ne commence pas à ne plus prêter attention à la correction. Donc cette première pensée ou cette première connotation concernant le mépris face à la correction, c'est d'avoir cette attitude de recevoir les instructions de Dieu, de recevoir la réprimande parfois de Dieu et de la négliger, de ne pas y donner toute l'importance qui se doit. On s'entend qu'il y a des moments où Dieu va dire « tu fais bien mon fils » et il y a des moments où il doit dire « mon fils, tu es en train de dévier, donc je te ramène par mes enseignements, je te ramène par mes instructions dans le droit chemin. » Négliger la correction de Dieu, ça serait dire « je me balance » du fait que tu veuilles que j'aille à gauche, moi je continue à aller à droite. Donc négliger la parole qui sort de la bouche de Dieu, négliger l'enseignement qu'il nous prodigue, négliger les correctifs qu'il nous enseigne quant à nos agissements, quant à notre attitude et à notre conduite, ou ne plus prêter attention. Et ça c'est peut-être une étape supplémentaire. Au début, on néglige, ah, j'ai oublié, mais à un moment donné, parle toujours, tu m'intéresses, une expression qu'on utilise en France qui veut dire, même si tu parles, je n'écouterai pas, c'est juste du bruit. Je prie et j'espère que dans mon cas et que dans ton cas, on n'est pas ce type de relation avec Dieu où on le regarde et on lui dit tout simplement, mais parle toujours, moi je fais ce que j'ai envie. Deuxième connotation par rapport à mépriser la correction, toujours dans le terme ma'ak, c'est rejeter ou refuser. Donc là, c'est plus simplement, j'y donne pas ou je ne lui accorde pas l'attention optimale que je pourrais lui accorder, mais c'est le fait de délibérément refuser ou de délibérément rejeter l'instruction de Dieu. Vous me direz comment un enfant de Dieu peut-il effectivement rejeter les instructions de Dieu. Mais en fait, on le fait à tous les jours. Quand je pêche, je sais que je pêche, et malgré tout, je pêche. Et j'en suis coupable. Donc très régulièrement dans notre vie, oui, Dieu veut amener des instructions, Dieu veut amener des correctifs, et nous prenons une position qui est de refuser et de rejeter. Donc Salomon va dire, non seulement ne commence pas à ne pas lui accorder toute l'attention qui se devrait, ne tombe pas dans le piège de négliger les instructions de Dieu, mais pire encore, ne tombe pas dans le piège de le rejeter ou de t'y opposer, de refuser cette instruction-là. On ne peut apprendre que si on est disposé à apprendre. Un ingrédient important dans le processus d'apprentissage, c'est d'avoir chez nous cette disposition à être enseigné. Si je ne suis plus enseignable, et je ne sais pas si le terme existe, je l'utilise à l'occasion, mais si je ne suis plus enseignable, ben à ce moment-là, peu importe qui est le professeur, peu importe quels sont les instruments, les méthodes didactiques qui vont être utilisées pour me transmettre une connaissance, si j'ai décidé de ne plus apprendre, je ne peux plus apprendre. Il y a comme un blocage qui se fait, et peu importe ce que tu dis, ça frappe un mur et ça rebondit. Donc je prie que tu ne sois pas dans cet état-là, je prie que je ne sois pas dans cet état-là. On est en danger lorsqu'on refuse l'instruction de Dieu, lorsqu'on refuse l'enseignement de Dieu. Ne méprise pas la correction. Correction, troisième terme ce matin, moukar, M-U-W-C-A-R, M-U-W-C-A-R, donc correction, trois déclinaisons. Premièrement, la correction parle de la discipline. Et la discipline en soi, aujourd'hui, la pensée qu'on a sur la discipline, c'est effectivement la réprimande et le châtiment. C'est effectivement, j'ai fait mal et on me tape sur le bout des doigts. La discipline, à la base, c'est pas cette notion-là qu'on a dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi lorsqu'on utilise maintenant ce terme « mettre quelqu'un en discipline », lorsque quelqu'un a péché et on le retire de ses fonctions qu'il exerce pendant un certain temps au niveau de l'activité de l'Église, cette punition que certains considèrent effectivement comme une punition est plutôt un temps d'arrêt qu'on devra prendre avec cette personne pour restaurer les bases sur lesquelles elle fonctionne et lui accorder tous les outils nécessaires pour ne plus retomber dans le péché, pour ne plus retomber dans la gaffe qui a été à la base de sa chute. Donc lorsqu'on parle de discipline ici, on ne parle pas nécessairement de cette notion coercitive ou coercive plutôt, lorsque on fait mal et on nous tape sur le doigt. Lorsqu'on parle de discipline ici, on parle plutôt de savoir vivre, de savoir comment évoluer, d'une connaissance de comment mener à bien notre vie. Un peu lorsqu'on parle des disciplines sportive. Donc, il y a le hockey qui est une discipline sportive qui ne demande pas le même entraînement ni la même pratique que quelqu'un qui ferait du ski. Le ski et le hockey sont deux sports d'hiver, mais ce sont deux disciplines complètement différentes. Aux Olympiques d'été, on va avoir le 100 mètres qui est un sprint et on va avoir le marathon qui est une course de fond sur 42 kilomètres. Donc, on ne s'entraîne pas pour le marathon comme on s'entraîne pour un sprint. Ce sont là encore deux disciplines différentes. Donc, lorsqu'on parle de correction, comme première connotation concernant le terme « moukar », on parle effectivement d'une discipline. Apprendre à évoluer dans le cadre d'être un enfant de Dieu. Apprendre à évoluer dans le cadre que constitue le royaume de Dieu ou l'Église. Deuxième connotation pour correction, là effectivement on parle de la réprimande. Donc première connotation discipline comme savoir-faire au sein d'un groupe. Deuxième connotation pour correction, la réprimande. Donc, être capable d'accepter que si j'ai mal fait, Dieu va me réprimander. Qu'est-ce que la réprimande? La réprimande, à la base, c'est me dire, Florent, voici, tu as mal agi. Et voici quelles sont les conséquences de ta mauvaise action sur ton environnement. Donc, c'est donc de me prendre à défaut, de me dire, Florent, tu as mal agi. Et il y a des personnes qui ne veulent pas entendre qu'ils peuvent mal agir. J'ai connu des gens, et c'est frustrant d'être à côté de ces personnes-là, c'est des gens qui font toujours tout pour ne pas être pris en défaut. Ils ne font pas nécessairement ce qui est bien, mais tu ne peux jamais leur dire qu'ils ont fait mal. Ils sont toujours intentionnellement à cette limite-là. Je ne ferai pas ce qui est bien, mais en même temps, tu ne pourras pas m'accuser d'avoir fait ce qui est mal. Lorsque Dieu nous prend en défaut, il va même jusqu'à scruter nos intentions, nos cœurs et nos pensées. Donc parfois, on peut faire quelque chose qu'on croit être le bien, qu'on affirme être le bien, mais foncièrement, on sait dans le fond de notre cœur que lorsque Dieu est en train d'examiner nos pensées, nos motivations, nos sentiments, lui peut dire qu'effectivement, la chose pour laquelle on a agi ou la raison pour laquelle on a agi était une mauvaise motivation. Prenons un cas tout simple. Certaines personnes se targuent d'être francs et d'être honnêtes. Et quand on y pense, la franchise et l'honnêteté, ce sont deux qualités. Mais la franchise et l'honnêteté qui est envoyée comme un bat de baseball ou un bâton de baseball en pleine figure de quelqu'un, c'est plus de l'honnêteté, de la franchise, c'est de la violence verbale. Donc certains se cachent derrière le fait qu'ils sont honnêtes et francs, mais le seul désir qu'ils ont, c'est de casser les dents de la personne qu'ils ont devant eux en fracassant leur visage à grands coups de paroles très franches et très honnêtes. Dieu nous appelle à faire preuve de bonté, à faire preuve de douceur. Dieu va même, la parole de Dieu va même nous dire qu'une parole dure excite la fureur, mais qu'une parole douce calme le cœur. Donc, Dieu nous exhorte à parler. Il va le dire à Timothée, lorsque tu vas reprendre quelqu'un, reprends cette personne avec douceur, reprends cette personne avec amour. Donc, quel est le désir, quelle est l'intention derrière la correction que tu largues à la figure de quelqu'un? Est-ce qu'effectivement tu le fais pour le bien de cette personne ou tu le fais simplement pour un défoulement? Et par rapport à ça, Dieu peut te dire, mon fils, ma fille, la correction que tu viens de servir à telle ou telle personne, tu es répréhensible parce que ton cœur n'était pas animé d'amour, ton cœur n'était pas animé de compassion, ton cœur n'était pas animé de miséricorde et de grâce envers cette personne. La seule chose que tu voulais, c'était te défouler et fracasser la mâchoire de la personne. Donc sur ça, Dieu peut effectivement nous réprimander. Troisième niveau, au niveau de la correction, il y a non seulement la discipline qu'on a parlé tout à l'heure, la réprimande qu'on vient de traiter, mais maintenant le châtiment. Dans la correction, il y a effectivement le châtiment, donc la conséquence de nos actes. Dieu nous pardonne, mais il y a quand même un châtiment qui s'exerce. Les gens vont nous dire, oui, mais Dieu est supposé être amour. En fait, comment il peut avoir créé l'enfer? L'enfer, à la base, n'a pas été créé pour toi ni pour moi. L'enfer a été créé à la base pour les anges qui se sont révoltés contre Dieu et qui se sont levés contre lui. À la base, l'enfer n'était ni pour toi ni pour moi. Lorsque la justice de Dieu s'accomplit, lorsque l'homme se met à pécher avec Adam et Ève et que nous tous qui en découlons avons notre nature pécheresse qui nous amène à pécher, la conséquence du péché dans la justice de Dieu est effectivement la condamnation pour l'éternité. Mais parce que Dieu nous aime, même face à cette correction, il nous donne l'occasion d'en sortir indemne, d'en sortir restauré, mais ça ne veut pas dire que la correction et que le châtiment a été oublié. Le châtiment a été payé. La Bible nous dit que Jésus a payé le châtiment. Donc pour tous ceux qui vont jouir de l'éternité dans la présence de Dieu pour le restant de l'éternité avec lui au paradis, Ben, il faut pas croire que ça a été un cadeau gratuit. Ce cadeau est gratuit pour toi, mais ce cadeau a coûté la vie du Seigneur et du Sauveur. Donc, le châtiment est aussi une matière dans laquelle Dieu exerce la correction. Et le châtiment ultime a été payé par Jésus. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que Dieu nous aime et parce que Dieu agit en tant que Père, il ne peut pas nous permettre de dérailler, de nous éloigner, de divaguer dans des voies qui ne sont pas celles qui nous mènent au salut. Il ne peut pas rester inactif et immobile face à ça. Donc oui, il va nous parler. Oui, il va nous réprimander. Et à l'occasion, oui, effectivement, il y a un châtiment qui va tomber sur nous. Mais la Bible nous le dit, on va le voir dans le verset de demain, comme un père qui aime son fils. Un père qui aime son fils ne lui permet pas de tout faire. Il applique une correction. Il applique des limites. Voyons le danger maintenant de, puisque c'est l'avertissement, et je vais terminer là-dessus, l'avertissement que Salomon donne à son fils. Et on sait que les enfants de David se sont rebellés contre leur père. Salomon a été choisi comme roi, mais Salomon lui-même avait des enfants. Il a sûrement eu crainte que ses propres enfants, comme ses frères s'étaient relevés contre son père David, il a certainement eu crainte lui aussi que ses enfants puissent se lever contre lui. Si c'était naturel, encore là le terme me déplaît un peu, mais si ça s'est passé dans la vie naturelle de David, dans la vie naturelle de Salomon, faut pas croire que nous ne nous levons pas à l'occasion contre Dieu. Donc Salomon dit à son fils, fais attention de ne pas tomber dans le piège de mépriser la correction de Dieu. Comment ça se fait le mépris à la correction de Dieu? Tout d'abord, si on méprise la discipline, si on méprise les règles de vie que Dieu nous donne. Savez-vous comment on appelle ça dans l'armée? Savez-vous comment on appelle ça dans un contexte d'autorité? On appelle ça de l'insubordination. C'est un terme qu'on n'aime pas voir appliqué sur nous-mêmes. Mais lorsque je ne suis pas les règles qui me sont imposées par celui qui est en autorité sur moi, lorsque je ne suis pas les règles que mon père en autorité sur moi, que mon maître en autorité sur moi m'impose, lorsque je fais fi de ces instructions et que je fais à ma tête, je fais de l'insubordination. Donc, par rapport à Dieu, il y a le risque que toi et moi aussi fassions de l'insubordination. Lorsque je méprise la réprimande de Dieu, lorsque je rejette, je refuse, je ne prête pas attention à la réprimande de Dieu. Savez-vous comment on appelle ça dans l'armée? On appelle ça de la rébellion. Et lorsqu'on parle d'un groupe de rebelles, de militaires rebelles, c'est un groupe qui était sous la directive du ministère de l'armée, sous la directive des généraux de l'armée régulière, qui se sont écartés du mouvement militaire régulier et qui ont créé leur propre faction militaire. Et on appelle ça des rebelles. Je peux faire partie de la rébellion contre Dieu. Au même titre où les enfants de David, par moments, se sont levés, ligués contre leur père pour le renverser, il est aussi possible que moi, en tant qu'enfant spirituel, j'ai tout le péché nécessaire en moi et j'ai toute l'iniquité nécessaire en moi et j'ai toute la nature pécheresse nécessaire en moi à l'occasion pour effectivement faire non seulement de l'insubordination, mais de la rébellion par rapport à Dieu. Pire encore, quand on arrive dans cette rébellion face à la correction même de Dieu, face au châtiment de Dieu, lorsque je refuse l'application du châtiment de Dieu sur ma vie, lorsque je m'oppose au châtiment de Dieu sur ma vie, savez-vous comment on appelle ça toujours dans un contexte militaire? On appelle ça une révolte. Et on ne veut pas être dans la révolte contre Dieu. Comprenez-moi bien, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient des éléments réfractaires au royaume de Dieu. Très souvent, c'est quelque chose qui se construit petit à petit. Et voilà pourquoi il est important d'en parler ce matin. Parce que pour plusieurs d'entre nous, soit on n'a pas encore connu cette étape d'insubordination, de rébellion, voire de révolte, soit on est tout simplement au début du processus. Comprenons que notre Père est le général de l'armée céleste. Et quand je m'oppose au général de l'armée céleste, je fais de l'insubordination, je tombe dans la rébellion, voire je tombe dans la révolte. Et l'armée céleste ne peut pas tolérer dans ses rangs de tels agents, de tels facteurs. Pourquoi? Parce que ça amènerait encore plus de contagion au sein des rangs. Alors, et pourquoi c'est illogique de faire de l'insubordination face à Dieu, face à ses réprimandes, face à sa discipline, face à ses châtiments? Ben, c'est illogique parce qu'il est Dieu. C'est illogique parce qu'il est Jéhovah. Ne méprise pas la correction de l'Éternel Jéhovah. Donc, celui qui est, celui qui existe, le seul et véritable Dieu. Qui je suis, moi, pour m'opposer à Dieu? Qui suis-je pour penser même que ma pensée est plus sage que la pensée de Dieu? Ma pensée a été affectée par l'iniquité, par ma nature pécheresse. Alors, à la base, je dois considérer que mes pensées versus les pensées de Dieu sont tout à fait infâmes ou sont tout à fait méprisables comparativement à la pensée de Dieu. Mais de surcroît à cela, puisqu'il est Jéhovah, il est aussi celui qui est ce qu'il dit qu'il est. Donc, Jéhovah, ça veut dire que l'Éternel dit qu'il est bon et il est effectivement bon. Ça veut dire qu'il est amour et il est effectivement amour. Ça veut dire qu'il est patient et il est effectivement patient. Mais ce n'est pas parce qu'il est patient, qu'il est amour, qu'il est bon, qu'il en est pour autant passif. Notre Dieu est un Père actif. Il assume son rôle de Dieu, il assume son rôle de Père, et il veut assumer son rôle de Père dans ta vie, si effectivement tu proclames qu'il est ton Père. Alors la question aujourd'hui, c'est pourquoi tu appelles Dieu ton Père? Un peu comme Jésus qui va demander à la foule, « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas ce que je vous dis de faire? » Il ne peut pas être ton Seigneur si tu ne lui obéis pas. Il ne peut pas être ton Père si tu ne te soumets pas à sa paternité et à ses droits paternels sur ta vie. Alors, c'était ce que nous avions pour ce matin, une mise en bouche pour le restant de cette semaine. L'objectif de la semaine dernière, c'était de comprendre l'argent sous une autre vision, de comprendre ce que nos offrandes pouvaient avoir comme portée dans notre propre vie. Aujourd'hui et cette semaine, on parle de la correction, de la discipline qui vient de Dieu, de l'autorité que Dieu exerce sur nous pour comprendre comment on peut, de façon tout à fait inconsciente dans les premiers pas, comment on peut quand même se lever contre Dieu et éviter ses pièges, éviter ses dangers, éviter ces traquenards que l'ennemi veut tendre devant nous. Alors permettez-moi de prier pour vous avant de vous laisser et de saluer malgré tout quelques personnes aussi. Alors Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole, nous te rendons grâce Seigneur pour ce temps que tu prends pour nous exhorter, pour nous clarifier ta parole. Je ne peux parler encore que pour moi Seigneur, mais je t'ai déclaré non seulement le Seigneur de ma vie, mais aussi mon Père céleste. Alors Seigneur, oui, je t'accorde tous les droits qui sont propres à un Seigneur. Puisque je suis ton disciple, je t'accorde tous les droits propres à un Maître. Puisque je suis ton apprenti, je t'accorde tous les droits propres à un enseignant et à un supérieur. Mais de surcroît à cela, puisque je suis ton fils, membre greffé, adopté par la famille céleste, je t'accorde aussi tous les droits de Père sur ma vie. Exerce ton rôle dans ma vie, Seigneur, parce que je sais que tu es un bon papa. Je sais que tu vas m'aimer avec cet amour incommensurable que tu as. Je sais que tu es bon. Je sais, Seigneur, que tu es fidèle. Je sais que tu es bon, miséricordieux. Je sais que tu as de la compassion envers moi. Et je sais que tu es passionné de ma vie parce que tu n'aurais pas donné ta vie si tu ne m'avais pas aimé. Alors Seigneur, ce matin, je proclame ton rôle de papa, ton rôle de père sur ma vie et je t'accorde, Seigneur, tous les droits qui y vont de pair. Bénis mon frère, bénis ma sœur cette semaine et aujourd'hui. Arrose cette parole de ton esprit, de ton onction et permets-nous, Seigneur, de croître en toi. Nous recevons, Seigneur, ta discipline. Nous recevons tes réprimandes. Nous recevons même tes châtiments, Seigneur, sachant que toute ta correction sert à faire de nous de meilleurs citoyens du royaume de Dieu, de meilleurs citoyens de cette société civique, mais aussi, Seigneur, de meilleurs enfants de Dieu. Que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, on vous rappelle le rendez-vous de ce soir avec le pasteur André, le cours qu'il a débuté la semaine dernière sur le livre des Actes. Donc, on espère que vous serez là ce soir. Et puis, sinon, on va se retrouver demain pour la suite de notre bénédiction matinale. Permettez-moi de saluer quelques personnes qui se sont connectées depuis tout à l'heure. Donc, bonjour à Denise Gaudreau, notre sœur de l'église de Deux-Montagnes. Bonjour à la sœur Martha Lucia. Bonjour à Consuelo et à Jean. Bonjour à Rachel, à Ocilia, à Mona, Chantal, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Diana. Bonjour à Maggie, bonjour à la sœur Florie, au frère Louis. Bonjour, qui d'autre? Bonjour à Agnès Gamia, que Dieu vous bénisse. Bonjour à Chanel, à David et à toute la famille. Bonjour à Ramon et à Evelyn. Qui d'autre? Bonjour à la sœur Nancy. Bonjour à Julie. Bonjour au frère Frédéric et à son épouse. Bonjour à Sophie, et puis bonjour à Andrés, et je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, donc on vous rappelle, rendez-vous ce soir à 19h avec le pasteur André, et pour nous, on se retrouve donc demain matin à 8h30, et même un peu plus tôt pour prendre un temps juste pour vous saluer. Comme vous savez, en général, je me connecte vers 8h18, 8h20 pour vous dire bonjour. Donc, je serai là, même heure, même poste demain. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Et pour vous aussi, fils et filles du royaume de Dieu, ne méprisez pas la correction de votre Dieu, de l'Éternel, de votre Papa céleste. Soyez bénis tout au long de la journée. À ce soir et à demain. Bye bye tout le monde.